Il est 18h, vous êtes sur Campus Paris. Restez à l'écoute sur le 93.9.
Les acteurs, je trouve ça con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de rire. Ils rient. Vous leur dites de pleurer, ils pleurent. Vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font. Moi, je trouve ça grotesque.
Je suis monté à la capitale avec ma valise et mes films Super 8 à l'intérieur. Et j'ai montré mes films Super 8 ici et là, dans des maisons de production, dans des journaux.
It's typical of French cinema, you know? Nombrilistic, you know? Nombril. Cinema about your nombril. Only to please yourself, not for the public. It's only for the intellectuals, you know? For the elite.
Bonjour et bienvenue sur Radio Campus Paris 93.9 FM dans cette nouvelle édition de Hors Champ. Hors Champ, vous le savez, c'est l'émission bimensuelle de Radio Campus Paris consacrée au cinéma. Et étrangement, ou en fait non, pas si étrangement que ça, ce soir nous allons parler littérature puisque nous allons consacrer cette édition au livre de cinéma. Alors, beau livre, essais, mémoires, textes théoriques, monographies, recueils d'articles, il y en a pour tous les goûts et nous reviendrons avec Laurence sur ce genre littéraire qui a mobilisé de nombreux auteurs et parfois Laurence aussi les cinéastes.
Et oui, Joséphine, voilà. Beaucoup de livres dont nous allons parler.
Exactement. Ce hors-champ sera aussi l'occasion pour nous de vous proposer une sélection de livres. Alors, puisque, bon, Noël oblige, on est quand même 2 semaines avant le sapin. Donc, de vous proposer une sélection de livres qu'il s'agisse d'indispensables à avoir impérativement dans sa bibliothèque, mais également de nouveautés parues durant ce second semestre 2005. Parler livres de cinéma, c'est bien, mais en parler avec un spécialiste, c'est encore mieux, puisqu'il lève les yeux au ciel. Nous avons avec nous Ente Bin, aujourd'hui, qui est le co-auteur d'un somptueux sauté par sauté publié aux éditions de La Martinière début novembre. Bonsoir Bin.
Bonsoir Joséphine.
Nous sommes ravis de vous avoir avec nous parce que on doit dire que l'équipe cinéma de Radio Campus Paris a littéralement flashé sur ce livre de 384 pages. Nous les avons lues et comptées. 384 pages consacrées donc à l'homme le moins frivole que je connaisse, disait de lui François Truffaut. 384 pages sur l'œuvre d'un cinéaste qui a su réconcilier, vous me reprendrez si j'ai tort, les amateurs de films d'auteur et ceux d'un cinéma plus populaire à travers des films comme César et Rosalie, Les choses de la vie ou plus récemment Un cœur en hiver, je ne cite là, enfin que les plus connus, il y en a d'autres, Vincent, François, Paul et les autres, Max et les ferrailleurs, Mado, il y en a beaucoup, on va y revenir avec vous. Donc effectivement, 384 pages de rencontre avec un cinéaste discret, mais aussi avec ses proches que vous avez rencontrés, ses collaborateurs, et chanceux que vous êtes avec Dominique Rabourdin, donc le co-auteur de l'ouvrage, vous avez eu accès aux archives personnelles de Claude Sautet, qui a ouvert pour vous, je crois, Claude Sautet avant sa mort, et Graziella Sautet et son fils,
voilà.
Yves.
Voilà, c'est-à-dire que ce livre en fait est parti d'une idée entre Dominique Rabourdin, mon co-auteur, Hervé de la Martinière, l'éditeur, et Claude Sautet, qui se sont rencontrés avec l'idée de faire un livre sur Sautet, ce qui n'était pas évident, c'était je pense dans les années 80, et moi je me suis greffé en fait au projet.
Alors on va
plus
y revenir,
voilà.
vous allez nous raconter tout ça, puisque c'est assez rigolo finalement la jeunesse de ce livre. Juste vous présenter quand même un petit peu en quelques mots, il hausse à nouveau les yeux au ciel comme si mon Dieu c'était un exercice pénible.
Et c'est vrai que Joséphine.
Oui, je vais faire attention, d'autant plus que pour parler de Mine c'est un peu compliqué parce qu'il a tellement de casquettes, on ne sait pas par quoi commencer. Je pense qu'on peut dire déjà que vous êtes critique de cinéma. Vous faites partie du comité de rédaction de Positif, la
oui.
célèbre revue
mensuelle
dirigée par Michel Simon. D'ailleurs, le dossier de votre numéro de décembre, c'est sur la couverture, je l'ai
vu. C'est le dossier sur Louis Malle.
Voilà, à l'occasion de la rétrospective à la Cinémathèque.
Oui, à l'occasion des 10 ans de sa mort et de beaucoup de ses films qui vont ressortir en salle.
Et Angers, je crois, le festival Premier Plan
Absolument.
Va lui consacrer une rétrospective du 22 au 29 janvier. On y reviendra, je pense, sur ce festival plus tard. Donc, je disais, vous êtes critique, mais aussi à Zurban également, ça qui est un hebdomadaire qui sort le mercredi. Vous êtes également producteur, distributeur, vous êtes aussi programmateur au Cinéma L'Archipel.
Paris 10e.
17 boulevard de Strasbourg. Même métro Strasbourg-Saint-Denis, où vous vous occupez aussi du Ciné-Club tous les mardis soirs à 20h30.
À 20h.
20h, ouais. Pardon. Donc, un film suivi d'un débat. On peut juste... là, vous faites un cycle. C'est le burlesque?
C'est le burlesque en ce moment. Et donc, mardi, vous aurez la joie de revoir ou de voir Monnaie de singe, Monkey Business avec les Marx Brothers, un film de 1931.
Et vous avez un invité pour mardi parce que vous êtes connu quand même pour avoir à chaque fois des invités prestigieux. On voilà. a vu Assayas parler de Bergman, notamment. Il y a eu Dominique Cabrera aussi, je crois, pendant ce cycle.
Oui, qui est venu parler de Cris et chuchotement parce que c'est son le film qu'il a révélé au cinéma. Et là, je vais avoir Anne-Marie Bidot, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Hollywood et le rêve américain, et qui est une grande spécialiste du cinéma américain en général et du burlesque en particulier.
Ok, donc Monkey Business, c'est mardi à 20h à l'Archipel, 17 boulevard de Strasbourg. De toute façon, on retrouve toutes les infos concernant l'Archipel sur le site internet du cinéma. Vous cherchez, vous trouvez, c'est assez facile. Et puis, vous êtes également bon enseignant et auteur. Vous avez publié des livres sur Ernst Lubitsch, mais également sur Mankiewicz et Bergman. On en reparlera, comment on écrit un livre de cinéma, comment on y vient.
Volontiers.
Mais tout de suite, avant de commencer, pour se mettre dans une ambiance, comment on dit, Saute-Étienne ? Il y a un adjectif ?
On dit pas. Bah justement, ça fait partie d'ailleurs de ce côté discret de Sautet.
Voilà, alors donc pour se mettre dans l'ambiance Sautet, on voilà. va dire ça comme ça, une musique que j'espère vous allez reconnaître.
This way, Elaine. We were lovers, never friends. We have to change our recollections. I won't write anymore, Elaine.
L'histoire n'est plus à suivre et je ferme.
Il s'agissait de Françoise Breu qui reprenait la chanson d'Hélène qui avait été composée à l'occasion de la sortie du film Les choses de la vie de Claude Sautet, mais qui était chantée par Romy Schneider elle-même.
Oui, mais pas dans le film. C'était un disque qui est sorti quand la bande originale du film a été éditée en disque, mais elle ne chante pas cette chanson dans le film. Je crois même que la chanson a été écrite après.
Oui, c'est-à-dire que pendant tout le film, on a cette mélodie de Sardes, oui, effectivement, qui revient, mais à aucun moment les paroles chantées par Romy Schneider.
Il faut dire, le film a été un énorme succès, a propulsé aussi, pas que Sautet, mais aussi Philippe Sardes, au premier rang des compositeurs de musique de film. Il était tout jeune à l'époque. Et donc, la chanson, je pense, a contribué ensuite à pérenniser cette musique dans l'esprit des spectateurs.
Et c'est vrai que Philippe Sardes, Claude Sautet, c'est une relation très très forte, puisqu'il a fait la musique de la plupart de ses films quand même.
Absolument.
Semble-t-il.
Philippe Sardes a l'habitude de dire que Claude Sautet était son père spirituel, hein, puisqu'il était vraiment tout jeune, il n'avait jamais rien composé quand il a rencontré Sautet. Et ensuite, il a travaillé sur tous les films de Sautet, à partir des choses de la vie jusqu'au bout. C'est-à-dire que même sur Un cœur en hiver, où il s'agissait de musique classique ou de répertoire, ça a été arrangé. Les sonates de Ravel ont été arrangées par Philippe Sardes. Oui.
D'accord. Alors donc, on commence à parler de Sautet, mais on peut supposer qu'il y a certains auditeurs qui ne le connaissent pas. Et là, Bine, je vais vous demander de vous livrer un exercice cruel et difficile, surtout quand on a écrit 384 pages sur un réalisateur, c'est de nous le présenter un petit peu, Claude, nous présenter ce cinéaste. En plus, qui est à part, on a du mal à le classer dans une famille comme d'autres cinéastes, à ceux qui ne le connaîtraient pas.
Claude Sautet est né au milieu des années 20 et il a eu un long apprentissage comme d'abord assistant réalisateur. Et puis souvent on le faisait travailler avec des réalisateurs qui n'étaient pas très bons et Sautet avait l'habitude de les remplacer un peu sur le plateau ou de pallier leur déficience ou leur inefficacité. Et petit à petit comme ça il s'est fait un nom dans la profession, c'était le plus célèbre premier assistant du cinéma français. Or quand au moment où il voulait lui-même passer à la réalisation, il y a eu un phénomène qui a, disons, submergé tout le cinéma français, qui s'appelle la Nouvelle Vague, et qui était une bande
Donc vers 58, hein,
voilà,
c'est ça,
à la fin des années 50, qui était une bande de critiques qui voulaient devenir cinéaste, mais qui rejetait une certaine tradition du métier qui se forge justement dans l'assistanat et qui gravit comme ça les échelons de la profession. Donc c'était un peu les jeunes turcs, et Sautet s'est retrouvé confronté à faire ses débuts en même temps que on ne parlait que de la Nouvelle Vague dans les journaux. Donc Sautet fait son premier vrai long métrage qui s'appelle Classe Tourisque, qui est un polar, mais un polar assez
avec
Lino Ventura et avec un jeune acteur qui la même année explose dans À bout de souffle, c'est Jean-Paul Belmondo. Et tous les journaux parlent de Belmondo dans À bout de souffle et on oublie un peu Classe Touriste. On prend Classe Touriste comme une sorte de polar à la française un peu traditionnel, alors que c'est un film extrêmement original, profond et complexe. Et ce film ne sera redécouvert finalement que 2-3 ans plus tard, lorsque une nouvelle bande de cinéphiles va le rééditer, le ressortir au cinéma MacMahon.
D'accord. Et puis après ?
Alors après, Sautet fait un autre film avec Lino Ventura qui s'appelle L'Arme à gauche. Mais Sautet a du mal à monter ses projets, en fait, parce que ses films marchent pas bien. Donc après L'Arme à gauche, qui est un film d'action avec Ventura, qui est un assez bon film d'ailleurs, mais assez peu représentatif de l'image de Sautet qu'on se fait aujourd'hui. C'est en 65. Comme le film ne marche pas très bien, Sautet dit « j'arrête de faire du cinéma, j'arrête ». Et il va redevenir, non pas assistant, mais il va devenir un peu le docteur du cinéma français.
Il était déjà un petit peu, d'ailleurs, avant Raffi Stoller, hein, parce qu'on lui, on lui donnait donc un script doctor, en fait.
Voilà, c'était un peu ça, c'est-à-dire que bon, il faisait un film tous les 2-3 ans. Donc, entre-temps, il louait ses services, en quelque sorte, comme mercenaire, pour donner son avis sur des scénarios, pour donner son avis sur des montages, pour faire le ressemeleur, comme disait Struffaut, du cinéma français. Et lorsque L'Arme à gauche ne marche pas, il dit j'arrête de faire du cinéma, je continue de faire des consultations, comme ça. Et un jour, en consultation, il reçoit par la poste ou par déposé chez lui, il reçoit un scénario de son ami Jean-Loup Dabadie, qui était un scénario pas encore dialogué, mais quand même déjà assez détaillé, c'était Les choses de la vie. Et Jean-Loup Dabadie lui demande, toi qui connais tout le monde dans le cinéma, j'aimerais bien que tu me trouves un metteur en scène pour réaliser ce film-là. Sautet le lit dans la nuit, et puis le matin...
On tombe amoureux.
Voilà, il dit, moi je veux faire ce film, je veux revenir au cinéma avec ce film-là. Donc, et ça, ce sera d'ailleurs quasiment l'un des seuls films auxquels il n'est pas participé au point de vue de l'écriture dès le début. Hein. Donc, il reçoit ce scénario, il y retravaille avec Dabadie, et ce sera un immense succès, à la fois succès critique, à la fois succès public. C'est un film qui ira au Festival de Cannes. Et donc, ça y est, la carrière de Sauté est relancée, alors qu'il avait décidé d'arrêter le cinéma. Ce qui est étrange, c'est que après les succès qu'on connaît, dont vous avez cité quelques titres, Vincent François Paul et les autres, César et Rosalie, etc., au début des années 80, Sauté est un petit peu dans une phase où on a l'impression qu'il se répète, il cherche des sujets, il a fait deux trois films qui ont un peu moins bien marché que précédemment, et à nouveau il va dire j'arrête de faire du cinéma. C'est après Garçon avec Yves Montand.
Et pendant trois ans, il a été détruit justement effectivement par Serge Danet. Il y avait un papier assez violent.
Oui, c'est un film qui a été relativement maltraité par la critique, qui n'a pas été un immense succès public alors qu'on aurait pu s'y attendre, et à nouveau Sauté dit j'arrête de faire du cinéma.
Et quel était le rapport de Sauté à la critique, puisque La Nouvelle Vague a été très soutenue par sa propre critique et très cassée par une... En gros, il y avait une scission.
Bah, Sauté, disons qu'il était très admiré par la critique dite grand public, la critique de la grande presse, les quotidiens,
les hebdos. Par exemple, Yvonne Babie au Monde, voilà. Ce genre de journaliste-là, plutôt.
Quasiment tous les quotidiens, sauf Libération. Et puis... Il y avait une frange critique dont Positif faisait partie, mais aussi Cinématographe, qui défendait son cinéma très fort. Mais il y avait un mur qui s'opposait à lui, qui était constitué en gros par Libération, les Cahiers du cinéma.
D'accord.
Pour qui Sauté était un cinéaste bourgeois, un cinéaste traditionnel, conformiste, ce que, à mon avis, il n'était pas. Et c'est intéressant parce que après avoir décidé d'arrêter, après Garçon, d'arrêter de faire du cinéma à nouveau, Sauté, il lui arrivait quelque chose qui arrive assez peu dans les carrières de cinéaste, c'est-à-dire que 3-4 ans après, il est revenu, et il est revenu, et cette fois-ci en faisant la quasi-unanimité, pas unanimité totale, mais avec 3 films, Quelques jours avec moi, Un cœur en hiver et Nelly, Monsieur Arnaud, qui l'ont complètement réhabilité.
Ces 3 derniers films,
voilà, ces 3 derniers films, une sorte de trilogie qui, au regard de laquelle on peut revisiter tout son cinéma antérieur en se disant mais oui, mais ces thèmes qu'on a l'impression de découvrir avec ces films-là, ils étaient déjà là avant, mais peut-être derrière une façade très brillante, on les percevait moins. Et tout d'un coup, la critique semble redécouvrir Sauté, et tout d'un coup, c'est vraiment une renaissance par laquelle il termine sa carrière.
D'accord. Alors on va parler du livre et donc de Sauté par ce biais-là. Avant de la publication donc votre ouvrage à La Martinière, il y a eu déjà plusieurs livres sur Claude Sauté. Il y a eu le livre de le cinéma de Claude Sauté de Joseph Corkmaz aux éditions L'Herminier, qui était le premier film, je crois.
Le premier livre. En 85. Et à une époque d'ailleurs où très peu d'analystes ou de gens vraiment d'exégètes s'intéressaient vraiment à l'œuvre de Sauté. Mm. Hein, donc ce livre est resté un petit peu isolé pendant.
Mais alors, après, c'est vrai qu'il y en a eu. Il y a eu les entretiens avec Michel Bouju paru chez Actes Sud. Et puis d'autres ensuite, notamment au moment de sa mort, où c'est souvent à ce moment-là que les livres arrivent. Alors, quand on arrive... Alors, c'est vrai que vous, votre projet, en fait, est né dans les années 80. Mais qu'est-ce qui motive ce choix? Pourquoi on a envie de... Vous avez en plus écrit sur d'autres cinéastes. Pourquoi à un moment, on se dit, il faut que j'écrive sur lui, même s'il y a eu des livres antérieurs? Qu'est-ce qu'on pense avoir à dire? Qu'est-ce qui motive cette envie-là?
C'est un peu les circonstances. Déjà, j'écrivais depuis assez longtemps, j'écris depuis la fin des années 70, dans Positif. Et Positif est la revue qui a toujours défendu Sauté. Et je dis vraiment défendre, parce que à certains moments, il y avait un enjeu critique de dire que Sauté était un vrai auteur. C'était ça la question. Donc, par ce biais-là, c'est vrai que j'ai été amené à apprécier le cinéma de Sauté. On en parlait en comité de rédaction, on voyait ses films. Ensuite, j'étais amené à l'interviewer. Et Sauté, c'était quelqu'un qui, justement, vous me parliez de ses rapports avec la critique, c'est quelqu'un qui était très reconnaissant aux critiques dont il semblait qu'il les avait compris. C'est-à-dire que... il aimait... Bon, il était reconnaissant vis-à-vis du public qui allait voir ses films, mais tout ce qui pouvait être aussi qualitatif d'appréciation sur son cinéma, qui montrait qu'on avait... compris, apprécié ce que lui avait voulu transmettre, il était très reconnaissant. Donc, il a demandé à faire ma connaissance même avant que je l'interview. C'est vrai que il s'est développé comme ça une sorte d'amitié professionnelle qui faisait qu'il m'appelait pour me féliciter ou pour me dire qu'il n'était pas d'accord avec certains de mes articles, etc. Et on déjeunait ensemble de temps en temps, comme il le faisait depuis plus longtemps
au
que Marty, ça, avec
donc, hein,
voilà, avec ça. Dominique Rabourdin. Et cette idée de tout d'un coup se dire que Sauté a plein de choses à dire, qu'il ne les dit quasiment jamais publiquement, Bon, il y a eu le livre de Bouju, certes, qui est excellent, qui était déjà un indice, comme quoi Sauter avait des choses à livrer. Et ben, tout d'un coup, moi, ce que j'ai eu au départ, c'était l'idée de faire un documentaire sur Sauter, que j'ai fait, finalement, que j'ai fait après sa mort, malheureusement. Mais au début, c'était ça.
Qui est sorti en janvier 2004, voilà, hein, c'est
qui est sorti, oui, en début 2004. Et ce projet de documentaire, au début, Sauter, il disait non. De toute façon, moi, j'aime pas parler, j'aime pas être filmé. Je suis très mauvais au micro. C'était la terreur, d'ailleurs, des journalistes de radio qui, pour la promotion des films, préféraient avoir les acteurs de Sauter ou ses scénaristes, mais rarement Sauter parce qu'il balbutiait, il s'énervait.
C'était le Modiano du cinéma.
Un petit peu, presque, ouais. Donc, c'était un mauvais client pour le service après-vente, on va dire. Et moi, il me semblait qu'il avait quand même des choses à livrer et qu'il n'était pas si timide que ça si on arrivait à faire fondre une certaine barrière, quoi. Et puis, il disait toujours non, un documentaire sur moi, pourquoi ? D'un autre côté, il tardait aussi avec le livre de Rabourdin. Et
oui,
puis...
parce que alors, il faut savoir que donc, conjointement, vous aviez entrepris des démarches parallèles. Dominique Rabourdin, lui, voulait faire un livre après le Truffaut par Truffaut qu'il avait fait. Il avait parlé à La Martinière, donc son éditeur, d'un Sauter par Sauter.
Absolument.
Et il voulait faire un livre alors que vous vouliez faire un documentaire.
Et je voulais faire un documentaire. Et au départ, c'était deux projets séparés. Et à un moment donné, il s'est avéré que Sauter lui-même m'a reparlé de ce projet de documentaire qu'on avait mis un peu en sourdine, parce que je voulais pas non plus jouer celui qui insiste lourdement. Et comme c'est lui-même qui m'en a reparlé, je lui ai dit, bon, bah écoute, on va peut-être commencer par faire des entretiens préliminaires pour essayer de voir ce qu'on pourra mettre effectivement dans le documentaire. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il était malade. Je savais pas qu'il était malade gravement au point de ne pas survivre finalement à la, enfin de ne pas voir la genèse de ce documentaire. Mais en tout cas, c'est lui-même qui m'a dit, mais en plus, je vais faire des entretiens avec Dominique Rabourdin pour un livre. Et quand on s'est aperçu, je connais bien Dominique, mais on n'était pas au courant chacun du projet de l'autre. Quand on s'est aperçu qu'il y avait ces deux projets parallèles, que d'autre part Sauter était malade, qu'il avait un cancer, on s'est dit, mais il faut qu'on le fasse ensemble, hein, ne serait-ce que pour ne pas trop le fatiguer, pour lui éviter aussi de répéter deux fois les mêmes choses. Moi, je disais, je vais faire des entretiens préliminaires à mon film, et pendant ce temps, tout cela, ça pourrait servir de matière au livre.
D'accord. Donc, en fait, vous avez co-signé et le documentaire et le livre.
Et le livre.
D'accord. Alors, en ce qui concerne les entretiens, puisque c'est un très beau livre parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a les entretiens avec Sauter, mais aussi avec ses proches. En ce qui concerne tout d'abord les entretiens avec Sauter, comment avez-vous procédé de façon, quel en était le rythme? À partir de quand vous avez commencé à les faire? Quel en était le rythme? Comment vous organisiez? Vous enregistriez, je suppose. Et il y a une histoire assez drôle, c'est que le dernier entretien que vous avez fait avec lui, enfin, c'est drôle, c'est tristement drôle. Juste avant sa mort, le magnétophone, c'est bloqué.
Ouais.
C'est...
On s'était habitué à ces entretiens. En fait, on a fait ça sur plusieurs mois et on voyait que Claude Sauter dépérissait. Donc c'était dur. Il était obligé ensuite d'espacer les séances d'entretien parce que ça le fatiguait beaucoup, mais il faisait énormément d'efforts pour être cohérent et pour être toujours précis comme il était dans ses films, etc. Ça a commencé de façon informelle. Au tout début, c'était juste, je mettais le micro, et puis on oubliait, il voulait presque lui-même ou faire comme si le micro n'était pas là pour pouvoir être plus spontané. Ce qui fait que je laissais le micro branché même quand on allait déjeuner, etc. Puis petit à petit, c'est devenu des séances beaucoup plus concentrées, hein, où on était d'accord qu'il fallait qu'on parle de mise en scène, c'est-à-dire pas tellement des thèmes ou des personnages de ces films.
Oui, c'est pas pourquoi machin a fait ça, pourquoi...
Voilà, c'était pas la thématique. Ce qui nous intéressait, c'était d'entrer dans le secret de son cinéma, vraiment, et de sa mise en scène. Et ça, on pouvait pas lui poser de questions théoriques. Il fallait forcément qu'on parte aussi de séquences, savoir comment il avait tourné cette séquence-là. Et ça, ça lui amenait des choses qui parfois étaient... mais hyper théorique, mais il s'en rendait pas compte lui-même. Il fallait toujours qu'on parte du concret. C'est comme demander à un magicien de vous expliquer sa magie sans qu'il explique ses tours. Non, lui, il devait partir des tours de magie. Et c'est comme ça qu'on arrivait à décrypter. Même quand on analysait une séquence, hein, on s'était dit qu'on allait lui apporter des cassettes et puis analyser plan par plan. Il n'y avait pas besoin. Il connaissait tous ses films par cœur. Donc, il pouvait analyser lui-même la raison pour laquelle il avait tourné à telle focale, il avait fait tel mouvement de caméra, il était passé du net au flou, il avait fait une coupure dans un champ contre champ, il avait fait une coupure d'un personnage à l'autre à tel moment. Il pouvait dire tout ça vraiment à l'image, à la seconde près.
Mais c'est Kubrick. On y découvre une nature de.
Il avait un côté. Il avait ce côté obsessionnel qu'il partage avec d'autres metteurs en scène hyper méticuleux. Mais ce qui était étonnant, c'est que lui, il faisait ça pour donner l'illusion de la vie, du naturel et du spontané à l'écran. Et que l'émotion, en fait, surgissait derrière cette discipline et ce perfectionnisme qu'il imposait. Et pour ça, il avait très souvent un langage de métaphore avec la musique.
Parce qu'en fait, il aurait aimé être musicien. Enfin, il disait que c'était l'art le plus haut, finalement. Il dit, je suis pas très sensible à la peinture, ça m'intéresse pas beaucoup. La sculpture, oui. Mais vraiment, la musique, c'est...
C'était pour lui le plus noble des arts, et c'était celui qui lui avait provoqué la plus grande passion. C'est-à-dire, Sautet n'aurait sans doute jamais pu être critique de cinéma. Il a jamais voulu. Il a un peu écrit sur le cinéma à de rares occasions. Mais par contre, il a été critique de jazz au quotidien Combat, juste après la guerre, quand il avait 22-23 ans. Et donc, c'était pour lui le jazz et la musique classique. Ça le nourrissait, et pas uniquement ça nourrissait sa vie intérieure, ça a énormément nourri son cinéma. C'est-à-dire que Romy Schneider, la chanson qu'on a entendue tout à l'heure, quand on entend le disque où elle la chante, on comprend, elle la parle en fait. Mmh. Hein, et ce qu'aimait Sautet dans la voix de Romy Schneider, c'était sa musicalité.
Avec cette pointe d'accent qui
oui, n'avait pas disparu. Il a souvent joué avec des actrices à accent, parce que justement, je pense que il pouvait, avec les acteurs ou actrices à accent dont le français n'était pas la langue natale, il pouvait travailler comme une partition. C'est-à-dire, il n'y avait pas les tics que peuvent avoir les comédiens quand ils disent des phrases de façon automatique. Là, il les retravaillait. Sa monteuse, d'ailleurs, disait que Sautet travaillait toujours aux intos. Il voulait dire les intonations. Et les intos, c'était pour lui ce qui lui faisait décider du choix d'une prise pour mettre dans son montage.
D'accord. Hein,
c'était très important.
Alors, je voulais revenir à la forme du livre. C'est pas une bio, parce que Sautet, de toute façon, n'en avait pas envie et s'y opposait. Oui. Mais c'est pas non plus classiquement un livre d'entretien. J'ai envie de dire que c'est un livre choral. Parce que donc vous avez interviewé une foule de gens, on a Graziella Sautet, donc sa femme, oui. On a Philippe Carcassonne, son producteur, Sard, le musicien, Daniel Auteuil, Emmanuel Béard.
On a ses scénaristes,
voilà,
enfin,
Jean-Loup Dabadi, voilà. José Giovanni. Et alors ce choix-là, est-ce que vous l'avez fait avec Sautet? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez décidé après? Parce qu'on aurait pu se contenter de la parole de Sautet.
Alors ça, c'était dans l'idée du livre de Dominique dès le départ. C'est-à-dire, c'était Sautet par Sautet. Il voulait que, contrairement au Truffaut par Truffaut, il voulait que ce soit plus, comme vous dites, choral, que lui fasse intervenir les techniciens, les collaborateurs, les scénaristes, de façon à éclairer de plusieurs facettes son cinéma. Et moi, j'avais eu la même démarche, en fait, pour mon documentaire, sans se concerter.
D'accord. Donc,
on s'est retrouvés. Et c'est vrai que ça ressemble un peu à un film à la Sautet, c'est-à-dire qu'on a plusieurs personnes qui concourent
c'est
à
ça,
bâtir...
C'est ça, c'est Claude, Graziella, Philippe et les
voilà,
autres, un peu.
Absolument. Mmh. Ouais.
D'accord. Alors, on parlait de livre choral. On va rester dans la musique en écoutant un extrait de l'album de Jean-Louis Murat avec Isabelle Huppert. On reste dans la littérature et le cinéma, puisqu'il s'agit de l'album de Madame Desoulières, tiré d'une poétesse, en fait, des textes d'une poétesse du 18e. On en écoute tout de suite un extrait.
Soyez inexorable, l'amour est inévitable. Soyez inexorable, l'amour est inévitable. Un amant bien traité se rend insupportable. Il néglige l'objet dont son cœur est charmé. De tous les petits soins, il devient incapable Un amant sûr d'être aimé cesse toujours d'être aimable. Soyez inexorable. L'amour est inévitable. Soyez inexorable. L'amour est inévitable. S'il faut pour un berger brûler d'un feu semblable à celui dont son cœur nous paraît consumé. Par de feintes rigueurs, rendons-le misérable. Un amant sûr d'être aimé cesse toujours d'être aimable. Soyez inexorable. L'amour est inévitable. Soyez inexorable. L'amour est inévitable.
De retour en studio avec Orchan, consacré au livre de cinéma avec Ntebin, co-auteur du Sauté par Sauté paru aux éditions La Martinière avec Dominique Rabourdin. Donc on revient à ce livre, Bin, parce que, c'est ce qu'on disait hors antenne, il y a 384 pages, mais il y a beaucoup de photos pour les plus fainéants. Il y a un texte quand même de grande qualité, ce serait dommage de passer à côté, mais vous avez eu accès aux archives personnelles de Claude Sauté. Alors vous qui avez écrit sur d'autres cinéastes comme Lubitsch, Mankiewicz ou Bergman, est-ce qu'on travaille différemment? Quand on a le cinéaste qui est à côté de vous, du moins pendant un certain temps, et deux, quand il vous livre ses archives et que donc vous avez accès à un matériau passionnant, important, où je suppose on a envie de tout mettre un petit peu, non ?
C'est beaucoup plus agréable déjà parce qu'on écrit moins soi-même, on laisse le livre s'écrire finalement. Quand vous avez Sauté qui parle, évidemment c'est nous qui guidons, et ensuite il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait par Renaud Besombe de collage, de découpage, de montage des textes, des interviews. Et ensuite, ce qui est extraordinaire, c'est de confronter tout ce qu'on sait déjà sur les films et les films eux-mêmes aux archives, c'est-à-dire à tout ce qui a précédé le tournage du film. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir naître, c'est comme des échographies, si vous voulez, d'un bébé, de quelqu'un qu'on aurait vu adulte d'abord. Et donc c'est absolument passionnant de savoir pourquoi tel personnage a changé de prénom parce que Romy Schneider ne voulait pas s'appeler Hélène pour la troisième fois. Enfin, il y a des choses.
Oui, il y a des plans de travail, il y a des croquis de décor.
Oui, savoir comment il travaillait. Alors Sauté, il avait des petites fiches coloriées. Et c'est des petites fiches, c'est des petits mémos, des aides-mémoires pour chaque jour. Alors, par exemple, sur un petit mémo, il met voir alors costume de tel acteur, voir proposition de titre pour le film, voir. Enfin voilà, il avait comme ça, c'est des pense-bêtes pour chaque jour qui étaient les problèmes qui devaient être résolus avec une urgence plus ou moins grande pour le tournage. Donc ces choses-là, ça nous apprend des choses aussi sur la façon dont il travaillait, la façon dont il concevait ses films, ses rapports aussi. Avec les comédiens, avec les techniciens, enfin c'est absolument passionnant puisque les scénarios annotés par exemple ou même les livres dont étaient tirés ces films annotés avec des scènes barrées, des scènes avec des remarques dans la marge, des choses comme ça, des projets d'affiches aussi pour Max et les Ferrailleurs qui était l'un de ces films qui lui tenait le plus à cœur. Il a fait des esquisses pour l'affiche qui sont dans le livre.
Et comment vous avez sélectionné justement quand on se retrouve face à une telle profusion de documents, qu'est-ce qui fait qu'on va prendre plutôt tel document que tel autre?
Alors très souvent, par exemple, pour ce qui est des scénarios avant dialogue, c'est-à-dire qui sont des récits écrits comme des nouvelles, en général on a sélectionné le début parce que c'est souvent ce qui débloquait l'écriture des scénarios de Sauté, c'est qu'il partait de portraits de ses personnages. Il faisait vivre les personnages et c'est ça qui amenait aux situations et dramatiques qui allaient se trouver dans le scénario. C'était jamais l'inverse. Il disait jamais, je pars de telle situation, puis après, je vais me débrouiller pour que les personnages ressentent ceci ou cela. C'est pour ça qu'il y a une grande authenticité d'émotion dans les films de Sauté. C'est parce qu'il partait toujours de ces portraits-là. Par exemple, il raconte que, pour Max et les Ferrailleurs, ils étaient bloqués à l'écriture. Et quand ils ont fait le portrait du personnage de Lily, joué par Romy Schneider, l'écriture s'est débloquée. Ils ont su ce que le film allait raconter à partir de ce moment-là. Que le film serait une histoire d'amour et non plus un polar. Oui.
D'accord. Et alors, donc, aussi dans votre ouvrage, vous avez fait le choix de mettre des extraits de critiques sortis oui. au moment des sorties, puisque on fait du film par film, hein, à chaque partie correspond à un
voilà,
film.
Voilà, c'est chronologique. Voilà. C'est chronologique parce que Sauté, c'est quelqu'un dont chaque nouveau film éclaire l'œuvre antérieure. Donc, c'est un petit peu la somme et la synthèse de quelque chose, ou alors ça se fait contre, ou alors ça vient enrichir quelque chose qui est déjà préexistant. Donc, c'est important d'être chronologique. Et
oui, parce qu'on aurait bien imaginé pour Sauté aussi un livre thématique oui. Avec de grandes entrées sur les femmes,
on aurait
sur
pu aussi
sur...
mais à chaque fois on a essayé à un moment de faire ça et on se retrouvait à refaire une chronologie à l'intérieur de chaque thématique, par exemple les femmes chez Sauté, puis on se retrouvait à faire la chronologie de personnages de femmes, les héros ou l'argent ou les... à chaque fois il y avait une thématique, à chaque fois on refaisait l'histoire du cinéma de Sauté. Donc on s'est dit finalement c'est mieux d'être chronologique, puisque comme ça on va avancer avec lui en
D'accord.
quelque sorte. Et il nous semblait intéressant d'exhumer des textes sur Sauté écrits à chaud au moment où les films sont sortis. Parce qu'il y a tout un contexte qui ensuite est perdu. Donc, savoir que Jean-Louis Borry avait défendu L'Arme à gauche, par exemple, et que ça avait redonné du cœur à l'ouvrage à Sauté, c'est important. Et avec un texte magnifique.
Parce que c'est assez rare de les trouver in extenso, justement, dans les livres de cinéma.
Oui, et ben, nous, on a voulu éviter le petit florilège de quatre phrases louangeuses, qu'on retrouve souvent dans les films d'eux, hein. Et, non, nous, c'est un très beau livre d'images, notre album, mais c'est aussi un livre de texte, et on voulait rendre hommage aux gens qui ont compris Sauté et qui ont su écrire sur Sauté. Des collègues à lui comme Jean-Pierre Melville ou François Truffaut d'ailleurs, qui ont écrit des textes magnifiques que nous reproduisons dans le livre.
D'accord. Alors on parlait également de, vous nous disiez que vous aviez fait un documentaire qui était sorti en janvier 2004. Moi, il y a une question qui m'est venue à l'esprit juste avant votre ouvrage. J'ai paru aussi aux éditions La Martinière un ouvrage sur Jean-Paul Goude qui incluait un DVD. On pourrait se demander, et ça pourrait être aussi l'avenir du livre de cinéma, pourquoi ne pas avoir inclus votre documentaire avec cet ouvrage, quitte à gonfler un peu le prix. Mais c'était ça le problème ou c'était des
non,
problèmes de
vous
droit,
savez, moi j'ai l'impression que le cinéma de Sauté a été un petit peu banalisé par la télévision et ensuite par la vidéo, et qu'il serait temps de le redécouvrir sur grand écran. Et c'est en partie pour ça que j'ai tenu à ce que mon documentaire soit projeté sur grand écran. Parce que un gros plan de Romy Schneider ou d'Emmanuel Béart sur grand écran, ça n'est pas pareil qu'à la télévision. Et Sauté avait vraiment réalisé ses films pour ce but-là. Donc il m'aurait semblé un petit peu paradoxal et peut-être contraire même à cet état d'esprit d'inclure en cadeau, comme le font énormément de livres ou de journaux, un film avec ce livre, qu'on voulait que ce livre ait une certaine tenue, et on ne voulait pas qu'il s'accompagne d'une banalisation d'un film de Sauté, vous voyez.
D'accord. Alors, juste pour conclure, dans votre introduction avec Dominique Rabourdin, oui. vous dites que ce livre n'est pas une commande, ou alors, oui. je cite, « une commande passée à nous-mêmes pour répondre aux questions que Sauté et son œuvre continuent à nous poser ». Alors, est-ce que, alors que vous avez fini d'écrire cet ouvrage, qu'il est publié, est-ce que son sujet apparaît différemment à l'auteur qu'au moment où vous aviez commencé l'ouvrage? Est-ce que Sauté vous apparaît différemment? Est-ce que, après avoir écrit un livre, on le...
Disons qu'il m'apparaît plus familier, évidemment, puisqu'on a été obligé de revoir tous ces films. Et en même temps, plus il est familier, et plus on a l'impression qu'il nous fuit. Parce que Sauté, c'est comme tous les grands films qu'on voit. Hein, quand on les revoit, on y découvre de nouvelles choses. Et on a envie de découvrir comment elle marche, c'est-à-dire de démonter un petit peu la mécanique. Pour
c'est voir. Ça et, qui motive l'envie de faire un livre aussi, je suppose.
Oui,
de
ce... et ce qui est fantastique avec Sauté, c'est qu'il n'y a pas de mécanique. Ou alors, il y a quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, de la composition musicale ou des choses qui sont difficilement... C'est presque de l'indicible. Alors, plus on a l'impression qu'on touche vraiment au cœur des choses et qu'on a compris... Les choses, et plus il y a d'autres choses qui nous apparaissent et qu'on n'avait pas vues avant et qui nous semblent capitales encore à explorer. C'est vrai de toutes les grandes œuvres en général et de tous les films en particulier qui sont quand même la réunion de plusieurs moyens d'expression qui sont mis au service de peut-être une heure et demie de visionnage. Donc, je crois qu'avec Sauté, ça, c'est ce qui est aussi très stimulant, c'est qu'on n'en a jamais fini avec Claude Sauté, alors que une certaine frange de l'opinion critique des années 70 voulait l'enfermer dans une sorte de d'étiquette sociologique, Sauté,
c'est bourgeoisie.
Voilà la société sous Pompidou, sous Giscard, etc. Bon, maintenant, on s'aperçoit que derrière ça, qui existe, il y a une exploration romanesque de l'humain et des rapports humains chez Sauté qui est absolument prodigieuse et qui n'a pas encore livré tous ses secrets.
Donc Sauté n'a pas encore livré tous ses secrets, mais il serait quand même dommage de se priver de l'ouvrage que vous avez écrit avec Dominique Rimbourdin, Ntebin. Donc il s'agit de Sauté par Sauté aux éditions de La Martinière, et nous allons continuer à parler livres de cinéma tout de suite après un peu de musique.
With my high starched collar and my high top shoes and my hair piled high up on my head, I went to lose a jolly hour on the trolley and lost my heart instead. With his light brown derby and his bright green tie, he was quite the handsomest of men. I started to yen, so I counted to ten, then I counted to ten again. Clang, clang, clang went the trolley. Ding, ding, ding went the bell. Zing, zing, zing went my heartstrings. For the moment I saw him, I fell. Chug, chug, chug went the motor. Bump, bump, bump went the brake. Thump, thump, thump went my heartstrings. When he smiled, I could feel the car shake. He tipped his hat and took a seat. He said he hoped he hadn't stepped upon my feet. He asked my name, I held my breath. I couldn't speak because he scared me half to death. Buzz, buzz, buzz went the buzzer. Flop, flop, flop went the wheels. Stop, stop, stop went my heartstrings. As he started to go, then I started to know how it feels when the universe.
Il s'agissait de Stacey Kent pour The Trolley Song, chanson d'extraite de Meet Me in St. Louis, c'est-à-dire Le Chant du Missouri, le film de Vincente Minnelli qui avait révélé un peu, enfin, première collaboration, je crois, de Vincente Minnelli avec Judy Garland. Laurence, nous te retrouvons maintenant pour parler d'autres livres de cinéma.
Et là, en l'occurrence, le débat.
C'est pas la bibliothèque idéale, mais presque. Hein. C'est-à-dire les ouvrages de référence.
J'assume totalement le côté personnel de la sélection. Hein.
La bibliothèque idéale de Laurence.
Voilà, je me suis appuyée un peu sur la mienne hein, pour commencer, et puis après j'ai élargi à ce que j'avais bon, trouvé. Ceci étant dit, donc on va peut-être commencer par tout simplement dire que littérature et cinéma ont beaucoup travaillé ensemble et que c'est pas complètement étonnant que la Nouvelle Vague ce soit des gens qui écrivent sur le cinéma et qu'il y a un rapport très très fort entre les gens qui écrivent sur le cinéma, les gens qui en font. Et donc, il y a la critique qui est sans doute là pour asséner les coups et donner les bons points, mais pas seulement.
Pas que.
Et heureusement, et c'est ça qui est très important dans la critique, c'est qu'elle montre une passion pour un cinéma qui est toujours aussi vive. Enfin, en France, en tout cas, on est béni pour ça. On a une presse pléthorique avec des avis qui vont dans tous les sens, des combats magnifiques et dantesques. Donc ça, c'est bien. C'est la preuve que le cinéma est vivant. Donc, insistons sur ce côté-là. Et donc, revenons sur l'historique des livres qui ont, en dehors de la presse et de la critique, qui ont affirmé à leur niveau l'importance du cinéma et des théories sur le cinéma qui ont aussi sans doute aidé des réalisateurs après à réfléchir et tout. Enfin, tout ceci étant lié, bien sûr. Donc, dans ma petite bibliothèque du livre de cinéma, je commencerai volontiers par André Bazin. Et qu'est-ce que le cinéma ? Alors, André Bazin, c'était un peu le parrain de la Nouvelle Vague.
le père spirituel même de François Truffaut, puisqu'il voilà. s'est beaucoup occupé de lui et puis il l'a très fait concrètement, écrire bien sûr. Oui, oui, au cahier.
Donc qu'est-ce que le cinéma? C'est un peu la bible de l'étudiant en cinéma, mais il ne faudrait pas que ça reste réservé à ces gens-là, puisque c'est un ouvrage qui aborde le cinéma avec beaucoup de questionnements. En fait, c'est qu'est-ce que c'est que le cinéma ontologiquement, quelle est la spécificité de l'image cinématographique. Donc c'est un questionnement toujours d'actualité. Évidemment, c'est un livre qui est un petit peu daté, avec des espèces d'a priori, de positions qui sont un peu difficiles à défendre aujourd'hui, mais en même temps il y a une espèce de radicalité dans le discours qui a été complètement nécessaire à une époque et qui se lit toujours très bien aujourd'hui. Donc, par exemple, une différenciation entre, une différenciation quasiment politique et éthique entre le plan séquence et le découpage, le montage, avec un texte qui s'appelle quand même Montage interdit. Donc, il y avait une prise de position de Bazin là-dessus. Je ne vais pas tout vous expliquer sur ces textes, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui sont lancées. On essaie de trouver l'essence de l'image cinématographique en la comparant, donc à la peinture, à la littérature. Donc voilà, une réflexion très protéiforme sur le cinéma, mais qui est d'une richesse qui n'a pas disparu aujourd'hui. Donc un livre à lire par tout le monde aujourd'hui encore. Je continuerai volontiers avec Serge Danet. Bon, on peut pas passer outre Serge Danet, qui est un critique, et bien sûr, et dont les recueils de critiques et aussi les livres qu'il a publiés forment une espèce de corpus absolument fascinant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui écrit magnifiquement bien, qui écrit vite, avec beaucoup d'idées.
Et clairement aussi, surtout.
Et clairement, avec emphase. Enfin, c'est quelqu'un qui est passionnant à lire. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu le Proust de la critique cinéma et de la littérature cinéma.
Bin n'a pas l'air d'accord.
Bin hoche la tête. C'est-à-dire, bon, j'écrivais dans une revue qui était traînée dans la boue régulièrement par Serge Danet, donc tout en ne niant pas du tout son talent, je me permets de froncer un tout petit sourcil.
C'est vrai qu'il y a eu la scission et la guerre entre Positif et Les Cahiers. Donc, Serge Danet était au cahier et donc Bin au positif. Mais bon, c'est vrai que...
Au crédit de Bin, on peut dire que c'est vrai que Danet, dans les années post-68, enfin, mais comme les cahiers en général, oui, c'était assez imbitable quand même.
Ah, mais
je
pense qu'on peut dire que de toute manière, les positions politiques de l'époque paraissent aujourd'hui un peu, enfin, surtout les espèces de tranchées sur lesquelles on refusait de dialoguer quasiment. Donc ça, c'est pas des choses qui... C'est pas ce qui a fait la richesse de cette pensée-là. Hein. Je pense que c'est pas dans cet extrême-là que Danet est le plus brillant. Mais en lisant tous ces textes au fur et à mesure, se dessine une vraie pensée du cinéma et du monde. Mais alors, c'est pour ça que, enfin, à mon avis, il faut lire à tout prix L'itinéraire d'un cinéphile. Mais il a aussi écrit d'autres choses.
Alors, pour les feignants, on peut le voir aussi, puisqu'il est édité en DVD chez Montparnasse.
Voilà.
Je crois, hein.
Un très beau DVD, mais bon, le lire, je pense qu'il y a plus de choses dans le livre. Et donc voilà, c'est l'histoire aussi d'un parcours. C'est quelqu'un qui écrit vraiment à la première, pas forcément la première personne dans ses textes, mais c'est vraiment très personnel. Et donc on a un parcours humain, une personne qui décrit au fur et à mesure l'évolution de sa pensée et qui est toujours d'une très grande lucidité. Et donc on le voit aussi dans le DVD, à la fin de sa vie, il retrace tout ça, mais d'une manière assez fulgurante. Donc c'est quelqu'un qui a des fulgurances sur le cinéma qui sont très riches. Donc ça, absolument indispensable à lire. Serge
Danet
déplore
malheureusement la mort du cinéma, mais c'est un discours récurrent chez les critiques.
Oui, mais ça aussi, c'est à prendre un petit peu avec des pincettes, mais bon, ça a son intérêt.
Faut crier au loup, quoi, un peu de temps en temps.
Voilà, ça a son intérêt de violence comme ça, assumée sur l'instant. Bon, après, faut voir ce qu'on en fait, mais Danet, lui, a vraiment produit quelque chose qui reste, à mon avis. Bah, alors, sur le côté toujours un peu théorie du cinéma qui fonde la pensée sur le cinéma, là, le groupe AV, c'est Gilles Deleuze. Donc, image-temps, image-mouvement. Alors là, je ne vous cacherai pas que c'est quand même très ardu à lire. C'est un philosophe qui applique sa pensée au cinéma. Si on prend le temps et si vraiment on se force, c'est d'une richesse incroyable, encore une fois. Excusez-moi pour le mot richesse qui revient tout le temps, mais bon, on est là. Pour mettre un pied dans la pensée de Gilles Deleuze, je recommande vivement, encore une fois, un DVD édité par Montparnasse, c'est l'ABCDR. Ça, c'est quand même très très beau. En plus, la figure de Deleuze, vieux monsieur, sagesse et aussi très grande générosité dans le regard, dans la voix. Et ça, c'est un grand moment d'humanité, quoi. Le truc passe tout de suite avec Deleuze à l'écran. Il est drôle, il est touchant, il est vraiment faible. Enfin, on sent qu'il est mal, et en même temps, il dit des choses très très belles. Il parle de la mort d'un petit chaton. Enfin bon, il est bouleversant, et en plus il dit des choses très intéressantes sur le cinéma. Il parle par exemple du rêve chez Minelli. Donc c'est quelqu'un qui travaille sur la naissance de l'idée, sur ce que c'est qu'un concept, et donc il donne de très belles idées sur le concept cinématographique. Donc voilà, Gilles Deleuze, l'ABCDR. Et l'image, tant l'image mouvement, quand on a le temps et qu'on réfléchit vraiment, c'est impressionnant. Je continuerai rapidement sur le Hitchcock Truffaut, qui est un peu une bible. tout simplement parce que Truffaut a interviewé Hitchcock, il connaissait très bien ses films. Hitchcock aussi connaissait très très bien ses films. Et donc c'est un discours très érudit et en même temps très accessible sur la construction des films, sur la réflexion d'un cinéaste complètement démiurge. On parlait tout à l'heure de Sauté qui connaissait tous ses plans en millimètres, et bien Hitchcock aussi. Et donc ils font aussi ce travail d'arrêt sur image et de reprendre chaque montage et pourquoi et comment. Je pense que quand on réfléchit un petit peu au cinéma, on commence par lire ça.
Ah oui, c'est incontournable. Mmh. C'est un ouvrage fondateur pour tous les cinéphiles. Je crois que c'est un ouvrage qui a donné beaucoup l'envie à beaucoup de critiques de devenir critiques.
Est-ce que c'est votre cabine ?
Notamment, oui. C'est-à-dire la littérature critique sur Hitchcock, quand moi je découvrais le cinéma dans les années 70, c'est quelque chose qui a beaucoup compté pour me dire que ce serait intéressant un jour d'écrire sur le cinéma. À la fois le livre Hitchcock-Truffaut, et pour moi ce qui a été décisif, ça a été malheureusement non traduit en français, les écrits de Robin Wood, Hitchcock's Films, sur Hitchcock, qui ont été une révélation pour moi.
Donc c'est celui-là. Alors c'est dommage, il n'est pas traduit en français.
Non,
mais
hélas.
Bon, si vous êtes anglophile et surtout fan, n'hésitez pas, Robin Wood, Hitchcock's Films.
C'est vrai qu'Hitchcock se prête volontiers à l'écriture puisque c'est quelqu'un qui réfléchissait à la moindre chose, le moindre détail. Donc à travers ses films, tout un discours peut se développer.
Et qui a construit un univers, donc il y a aussi ça, l'idée de pénétrer non seulement derrière les coulisses des films, mais aussi presque dans le mental d'un créateur. Ça, c'est un livre extraordinaire.
D'évider le fil de la pensée, c'est vrai qu'il se prête.
Et donc maintenant j'aimerais passer peut-être au livre écrit par des cinéastes.
D'où Hitchcock-Truffaut, une transition ma foi fort habile.
Merci Joséphine. Donc, d'abord pour finir sur les penseurs, je vais quand même en citer quelques-uns, je ne vais pas citer les titres de livres, mais bon, je recommande toujours sur l'idée d'approfondir sa réflexion sur le cinéma. On peut toujours lire Guy Debord, Jean Douchet, Jacques Rancière, Jean-Louis Schaeffer, Clément Rosset, bon, des noms qu'on trouvera sur le site internet de Radio Campus pour que vous puissiez, avec des références.
Barthélémy Amingualj, qui vient de disparaître, Roger Tailleur, Robert Benayoun, je parle un peu pour ma chapelle parce qu'on a tendance à les oublier un petit peu.
Non,
mais vous faites bien.
Ado Kirou. Surréalisme cinéma, qui vient d'être réédité.
J'ai une question très bête, mais quelqu'un comme Georges Sadoul, par exemple, on le lit plus. Enfin, c'est pas quelqu'un. Enfin, je sais pas.
Moi, j'ai dû lire quelques livres, mais c'est pas. Enfin,
l'histoire du cinéma mondial de Georges Sadoul, ça a été une bible pendant longtemps. Après,
on a découvert.
Bon, il y a eu un énorme travail, effectivement, de recherche et le fait que ce soit un pionnier et tout. Et c'est quelqu'un qui savait raconter. Donc, c'est un livre qui se lit comme un roman. Maintenant, les a priori, les partis pris de Sadoul ont pris un sérieux coup de vieux, notamment ses positions un peu staliniennes, etc. Donc, mais il faudrait pas non plus nier l'importance que ça a eu pour les jeunes cinéphiles de mon âge, par exemple.
Et donc, je continue sur les cinéastes qui ont pris la plume et qui ont... Alors, il y en a, on l'a dit tout à l'heure, qui ont commencé par écrire, donc la nouvelle vague. Mais on va pas revenir essentiellement sur eux. Moi, je voudrais citer, par exemple, le journal d'Andrei Tarkovsky, un ouvrage absolument fascinant sur une époque, sur une civilisation, enfin sur une façon de faire des films et sur la vie d'un homme qui, sans jamais se proclamer dissident, parce qu'il est plein d'amour pour sa patrie, pour les idéaux de sa patrie, hein, il assume tout à fait, il est russe et il veut croire à l'idéologie de son pays, et en même temps c'est un cinéaste et il va jamais laisser le pays prendre le pas sur ses inspirations esthétiques et artistiques. Et je trouve que c'est une destinée absolument exemplaire, je trouve, d'un homme qui, parce qu'il croyait en ce qu'il faisait, n'a jamais dit oui à ce que le pays voulait qu'il fasse. Donc c'est quelqu'un qui a toujours fait des films, malgré la reconnaissance internationale, il recevait des prix dans tous les festivals, il a jamais été aidé et il a fait ses films dans ses studios, dans les studios russes, comme ça, très dictatoriaux, et il a fait des films complètement fauchés, enfin il était complètement mis à part, quoi. Et c'est quelqu'un qui a tenu sa ligne jusqu'au bout, il n'a jamais fait les films qu'on voulait. Donc Tarkovsky, puis c'est aussi un témoignage sur une époque fabuleuse, donc voilà, c'est inratable, le journal de Tarkovsky. On peut continuer sur les notes sur le cinématographe de Robert Bresson. Encore une fois, quasiment un manuel sur sa façon de faire des films, donc sur le cinématographe, puisqu'il appelait ça comme ça, le cinéma. C'était une vraie éthique du cadrage, une vraie éthique du cinéma, de faire des films. Et par exemple... Donc, précision du cadrage, attention portée sur le son et la parole, acteur neutre qu'il appelait les modèles. Il a développé cet univers dans lequel l'acteur doit se tenir comme en pays étranger. Enfin, il dit ça à un moment dans le livre. Et donc, c'est tout à fait fascinant, en fait. C'est un livre qui décrit un mode de pensée du cinéma complètement cohérent. Et si on aime les films de Bresson, il faut lire ça.
Et puis, qui est très agréable à lire, en plus, les notes sur un cinématographe. Parce que souvent, quand on dit Bresson, il y a parfois un petit mouvement de réticence. On se dit que ça va être difficile, etc. Certains de son film ne le sont pas, d'ailleurs. Oui. Mais le style, c'est un ouvrage qui se lit comme un roman, ça, je peux vous dire.
Tout à fait, ouais.
Et puis bon, agréé par Bean. C'est bon.
Magnifique. Et donc, assez brièvement, on pourra parler aussi de Pier Paolo Pasolini, donc, qui a écrit des poèmes. On peut lire ses poèmes,
qui ont été
réédités
il y a peu à la NRF, chez Gallimard, par Dominique Fernandez, dans une très très belle traduction. Vous l'avez en bilingue.
Merci, Joséphine. Voilà. Et qui a aussi écrit des critiques à une époque et qu'on peut trouver, pardon, dans un recueil qui s'appelle Écrit sur le cinéma, petit dialogue avec les films. Et donc, c'est une pensée très politisée, très, très émotionnelle aussi, quoi. C'est vraiment première personne. Et c'est très intéressant à lire pour l'époque aussi, le contexte. Donc, Pasolini. On peut aussi lire Lanterna Magica de Ingmar Bergman. Là, c'est du pur témoignage, sa vie privée, ses histoires, ses films, comment tout se mélange.
Et en même temps, c'est un livre très romanesque, moi je trouve, ouais. Parce qu'il est construit comme un scénario de Bergman. C'est pas dans l'ordre. Mmh. Il y a les souvenirs qu'il assaille comme ça, et puis qu'il balance dans l'ordre dans lequel ça lui vient. Et c'est vraiment l'une des, je crois, biographies ou autobiographies de cinéastes qui mérite le plus le qualificatif d'œuvre littéraire.
Ouais, voilà, c'est très très bien écrit. Et pour finir, de Vienne à Shanghai, les tribulations d'un cinéaste de Joseph von Sternberg. Donc les mémoires du réalisateur. Donc c'est pas un des moindres réalisateurs. Et il a parcouru plusieurs périodes. Il a eu une grande carrière. Ses films sont magnifiques. Il a connu le Hollywood glorieux. Et donc il nous raconte des tonnes d'anecdotes. C'est très bien écrit. Ça se lit aussi comme un roman.
C'est un peu mythomane, mais c'est extraordinaire.
C'est un peu mythomane. Et aussi, il a toujours des opinions comme ça, assez tranchées. Avec par exemple son avis sur les acteurs qu'il devait aimé par intermittence. Je vous lis un extrait. Quel que soit leur aspect, tous les comédiens et toutes les comédiennes savent qu'ils sonnent creux sans la substance prodiguée par le poète. Et ils oublient rarement, sauf si les flatteries leur tournent la tête, qu'ils ne sont que des instruments pour celui qui choisit de les utiliser. Donc voilà l'avis de Sternberg sur les acteurs. Très radical. Mais le livre est très drôle. Enfin, c'est plein d'aventures, comme on imagine que sa vie devait l'être. Et
Le premier titre était... moi, je le préférais, c'était Souvenir d'un montreur d'ombre. La première traduction française de ce livre. Oui.
Ouais, c'est plus élégant.
Donc c'est à la petite bibliothèque des cahiers du cinéma qu'on retrouve les mémoires
de
Sternberg.
Voilà, j'ai pas donné
Sternberg.
Toutes les sources. On les donnera sur le site. Et alors, je finis juste sur une perle. Un chouchou. Le scénario de La Maman et la Putain de Jean Eustache. Voilà, c'est juste
petite,
un des plus beaux textes.
Petite bibliothèque aussi.
Ouais, un des plus beaux textes écrits pour le cinéma, pour être filmé, et ça se lit comme un roman, c'est sublime, voilà.
Ok, La Maman et la Putain. Alors juste, en quelques mots, vous dire un petit peu les sorties à l'occasion de Noël, ce que vous pouvez acheter, ce que vous ne devez surtout pas acheter, mon Dieu. Et si vous êtes une maman ou une grand-mère, n'achetez pas certains livres, ils sont défendus. Dans les livres autorisés, évidemment, Le Sautet par Sautet de N.T. Bin et Dominique Rabourdin aux éditions de La Martinière. Vraiment, vraiment magnifique.
Recommandé
plus que chaudement par l'équipe cinéma de Campus Paris. Vous savez qu'on est méchants. Également, Le Film Noir, Vrai Faux Cauchemar de Noël Simsolo aux éditions Cahiers du Cinéma. Essai. Voyons, on parle jamais de positif. On va le faire dans les petits prix. Il y a Jean-Christophe Ferrari, votre confrère de positif, qui est éditeur aux éditions de la Transparence, avec une belle collection qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Philosophie et Cinéma, je crois.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai entre mes mains La Ligne Rouge de Michel Chion, mais Jean-Christophe Ferrari en a signé plusieurs lui-même. Par exemple, Remorque de Jean Grémignon, qui est un très beau livre, ou encore Les Amants Crucifiés. Bref, ça, c'est aux éditions de la Transparence.
C'est des monographies consacrées chacune
voilà,
à un long métrage.
Voilà, un livre. Ouais. Un film, pardon, ouais. Alors, une jolie découverte, c'est Au dos de nos images de Luc Dardenne. C'est un journal tenu par l'un des frères Dardenne, justement, de 91 à 2005, avec de très belles pensées sur le cinéma. Ça se lit très bien. Et il est accompagné des scénarios du fils et de l'enfant. Je vous parle aussi du livre de Martin Scorsese, rapidement, aux éditions Cahiers du Cinéma, de Michael Henry Wilson, à lire, vraiment formidable. Et les choses à ne pas acheter, la biographie de Lars von Trier par Jean-Claude Lamy, qui vraiment est une hagiographie et non pas une biographie. Histoire de film français de Jean-Luc Douin, parce que 75 euros pour un livre pareil, c'est un petit peu abusif, il est pas très très intéressant. Et enfin, s'il vous plaît, arrêtez d'offrir l'année du cinéma, ça ne sert à rien. Cette année, il est rédigé par Daniel Eman, à part encombrer les étagères. Je sais pas vous, mais moi je l'ai eu à plein de Noël, et franchement c'est sans intérêt. Laurence, pour terminer,
Moi juste un conseil, c'est un livre qui vient de sortir, un petit livre, une monographie sur Jess Franco, un cinéaste qu'on n'a pas beaucoup étudié et qui est très intéressant. Ça s'appelle Énergie du fantasme, c'est écrit par Stéphane Duménildo, c'est aux éditions Rouge Profond, collection Raccord, et donc Jess Franco fait des films érotiques vachement beaux. Voilà,
pour finir sur une touche un peu olé olé.
Donc, on peut à Noël, c'est très chouette comme cadeau.
Tout à fait. Merci beaucoup Ntebine d'être venue nous voir pour ce livre sur Claude Sautet paru aux éditions de La Martinière, et pour la façon dont vous nous avez si bien parlé de lui et de votre ouvrage. Un grand merci à Laurence qui a collaboré à cette émission, à Philippe qui assurait la technique.
Merci Joséphine.
Vous retrouvez l'équipe cinéma mercredi soir dans Extérieur Nuit de 19h à 20h. Quant au prochain hors-champ, ce sera dans 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises.
À peu près un mois.
Voilà.
Entre 2 semaines et un mois.
Eh bien voilà, je m'ai surveillé. Bonne soirée et à très bientôt sur Radio Campus Paris.
Enfin, j'en sais rien du tout.
Et la cascade où elle est ?
Elle est retirée, elle s'est retirée à l'habillage.
Quoi ? Va la chercher.
In most sex films, however, the viewpoint is strictly male. They're written by the male, directed by the male, and seen by the male.
La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
Label Kill the DJ. Squat, DJ Easyman, Dunwich, DJ Patrick Lewis. Non, Patrice Lewis. Ah oui, c'est gratuit. Il y aura Sigrid.